La vagabonde, le monde est sur vos ondes.
Et bonjour, vous êtes bien sur la radio Info RC. Aujourd'hui, pour la vagabonde, je laisse les micros et les platines aux élèves du Club Info du Collège de Jastres. On va parler bande dessinée.
Les interviews du Club Info du Collège Jastres.
Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Hervé Caraz et Guillaume alias Shinkamichu pour nous parler du carrefour européen du 9e art et de l'image. Bonjour.
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 Dans un premier temps, nous allons vous poser des questions sur le festival et dans un second temps, je laisserai la parole à mon camarade Mathurin pour vous poser des questions sur le métier de mangaka. S'il y a des intéressés pour venir, la première question sera quand et où se passera ce festival?
Alors, ça se passe le week-end qui arrive, le 23 et 24 mars, donc samedi et dimanche, à l'espace Liénard, à Aubenas.
Ok. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette 17e édition du Festival de la BD?
Alors, on a prévu d'inviter une trentaine d'autrices et d'auteurs de bandes dessinées, d'avoir aussi des ateliers, des expositions, des conférences, un blind test musical avec des chansons que Didier Tronchet, qui est l'invité d'honneur, a appelé les chansons à se pendre. Donc voilà, c'est un petit décalage, pour lui, humoristique. Puis voilà, il y a plein d'animations tout le week-end sur Liénard pour le festival de BD.
Quels sont vos rôles à tous les deux dans l'organisation du festival?
Alors moi, je suis simplement un invité, un auteur, du coup, donc j'aurai un stand et je vendrai mes mangas, des illustrations, etc. Et des illustrations à demande également. Donc tout ce que j'ai à proposer aux gens, et n'hésitez pas à venir me voir, à venir discuter.
Et moi, genre, je suis directeur du service culturel de la ville. En fait, c'est la ville d'Aubenas qui organise le festival, avec plein d'autres partenaires, d'autres structures comme la médiathèque, que vous connaissez, qui est juste à côté. Voilà, donc j'ai toute une équipe qui travaille avec moi pour organiser ce festival.
Pourquoi organiser ce festival ici, à Aubenas, du coup?
Alors en fait, ça date de 2007, la première édition. On a rencontré un monsieur qui avait fondé le Festival d'Angoulême, qui est le plus grand festival de bande dessinée internationale qui existe. Et il était venu à Aubenas pour une autre manifestation, et il nous a proposé de faire un festival de BD à Aubenas, parce qu'il trouvait que la ville s'y prêtait, qu'il y avait des librairies, qu'il y avait plein de choses à découvrir. Et du coup, on a suivi, et depuis toutes ces années-là, on fait ce festival de BD.
Qui est votre invité d'honneur cette année?
Alors l'invité d'honneur, c'est Didier Tronchet. Donc c'est un artiste de bande dessinée, et c'est lui qui a réalisé l'affiche du festival. Chaque année, en fait, l'invité d'honneur réalise l'affiche qui est dédiée pour le festival.
Maintenant, je vais laisser la parole à mon camarade Mathurin pour parler à vous, du coup, Guillaume, du métier de mangaka.
Merci Milo pour tes questions. Je vais maintenant interviewer le mangaka Shinkamichu sur son métier de mangaka. Pour commencer, pourquoi avoir choisi le métier de mangaka?
Eh ben, c'est assez simple, c'est assez logique. Depuis tout petit, j'aime bien déjà la BD, j'aime bien dessiner. Quand j'étais petit, je dessinais bon des bonhommes bâtons comme tout le monde. Puis j'avais essayé de faire un peu quelques cases de Lucky Luke. Et au collège, à partir de 13-14 ans, j'ai découvert du coup justement les mangas. Et je me suis dit tiens, ça c'est ce que lisent mes copains. J'étais tombé sur un magazine avec un petit extrait en fait. Et donc j'avais acheté ça, et dès que j'ai commencé à lire des mangas, je me suis jamais arrêté, je suis tombé dedans, on va dire, un peu comme Obélix. Bah, comme j'aimais déjà dessiner, vouloir dessiner des mangas, bah, ça me paraissait naturel. Quand j'étais au collège, j'ai décidé d'abord au collège, je me disais je vais faire semblant d'être traducteur japonais pour pouvoir aller au Japon, et une fois là-bas, je deviendrai mangaka, parce que si je disais à mes parents, en tout cas c'est ce que j'imaginais, si je disais à mes parents que je voulais devenir mangaka comme ça, ils seraient peut-être pas d'accord, alors qu'en vrai ils sont très sympas, c'est juste que j'avais un peu peur à l'époque de la réaction. Et au fil du temps, du coup, bah, j'ai une formation, du coup, une licence anglais-japonais, donc en langue. J'avais un peu arrêté de penser au manga, enfin à l'idée de devenir mangaka, je lisais toujours des mangas. Et quand il s'est posé la question de qu'est-ce que je vais faire de mon diplôme, est-ce que je vais continuer dans la traduction, dans l'interprétation, tout ça, je me suis dit, ouais, ça me plaît pas tant que ça, autant tenté le coup en manga, en fait. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu mangaka.
D'accord. Pourquoi avoir choisi le pseudo de Shin Kimitsu ?
Alors, c'est un pseudo qui vient de l'époque du collège. Il peut avoir plusieurs lectures, en fait. Shinkami, donc Shinka, ça peut être l'évolution, le changement, et Mi, observer, ou l'observateur, du coup. Donc, c'est plutôt l'interprétation que j'en retiens aujourd'hui. Mais Shin, ça peut être la vérité, ça peut être quelque chose de nouveau aussi. Ka, ça peut être les fleurs, ça peut aussi être l'été. On peut l'interpréter de plein de façons différentes, et comme je ne l'ai pas écrit à l'origine avec des caractères en japonais, eh ben, l'interprétation reste libre. Et Chu, c'est parce que Shinkami tout seul, à l'époque, c'était déjà pris sur les sites où je me suis enregistré pour mettre mes illustrations. Et Chu, c'est une référence à un manga qui s'appelle Negima. Il y a un personnage là-dedans qui utilise ce pseudo justement sur Internet.
Si vous n'avez pas été mangaka, quel aurait été votre choix de carrière ?
J'aurais peut-être fait justement de la traduction ou de l'interprétation en japonais, en anglais. Sinon, quand j'étais petit, je voulais être archéologue, puis après je voulais être pilote de chasse, un peu comme beaucoup de gens, j'imagine. Paléontologue, hein, pour être précis, parce qu'en fait j'aimais pas trop les squelettes, les momies, je préférais les dinosaures.
Okay, d'accord. Vous avez aussi un manga qui s'appelle N564, pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Ouais, N564, donc c'est une comédie un peu tranche de vie. C'est mon premier manga, et donc c'est autopublié. Comme tous mes mangas, je suis un auteur autopublié. Et on suit le quotidien d'une lycéenne ordinaire qui s'appelle Misaki. Un quotidien qui va être complètement chamboulé par l'apparition d'une petite sorcière qui va lui faire des misères un peu tous les jours. Et si on devait le résumer avec un titre à rallonge, parce qu'il y a beaucoup de mangas et d'animés qui ont des titres à rallonge ces temps-ci, ça serait « Ma vie, quand je ressuscite une sorcière démoniaque sans faire exprès, au secours ». Voilà. Et donc c'est mon manga principal. Le quatrième tome sortira en juin, notamment à la convention Manga Mania Montélimar. Ça sera le dernier tome de la série. Et donc, ça sera 150 pages d'histoire en tout, une fois le quatrième tome terminé.
Pourquoi avoir eu envie de parler de cela en particulier ?
En fait, c'est un genre que j'apprécie, le genre tranche de vie, comédie, avec un peu de surnaturel, etc. Et donc, c'est une idée qui m'est venue quand j'étais au lycée. Comme j'aime beaucoup ce genre d'animé, tout simplement, j'avais des idées moi-même de dessins animés ou de mangas, donc d'histoires dans ce genre-là. En fait, le premier tome est sorti en 2017, quand on m'a proposé pour la première fois de participer à une convention manga, un salon. Avant, je me sentais pas très légitime à participer à un salon du livre. J'avais pas forcément confiance en mes illustrations, en ce que je faisais. Mais quand c'est une amie qui a fini par me convaincre. Et là, je me suis dit, d'accord, mais il faut que j'ai quelque chose de concret à vendre. Et c'est là que j'ai pioché dans mes vieux cartons l'idée de N564 pour justement faire un livre, un manga. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Pourquoi avoir choisi ce nom
de N564? En fait, c'est simplement le nom magique de la sorcière. C'est un nom de magicien, quoi, un nom de sorcière.
Pourquoi avoir choisi d'éditer vos mangas en grand format plutôt qu'en format classique de manga ?
Alors c'est vrai que du coup, N564, il est en format A4, donc on voit pas vraiment ça, ça ressemble plus au format bande dessinée album traditionnel. Et en fait, comme les tomes, il y a 40 faces, donc c'est 40 pages en fait, y compris la couverture. C'était un format en termes de volume, de nombre de pages, qui se rapprochait plus du doujinshi. Donc le doujinshi, c'est le fanzine en fait japonais. Donc c'est des mangas amateurs qu'on retrouve dans tous les genres. On retrouve des parodies d'autres séries ou des mangas originaux. Et eux, ils sont en format alors du B5 GIS, parce que le B5 japonais et le B5 français, c'est pas le même, alors que c'est censé être des standards, mais bon. Donc ça ressemble plus à un format A4 qu'un format A5 ou 13x18, comme les mangas classiques. Et comme moi, j'avais un nombre de pages qui correspondait, je me suis dit, je vais faire un format plus grand comme ça, plus fanzine.
Dans certaines interviews, vous dites avoir été inspiré par d'autres mangaka, comme Ryu Mizunagi, Kiyoshiko Azuma et Ino Asano, et d'ailleurs j'ai retrouvé dans une interview pour le journal La Tribune, vous dites une phrase que j'ai trouvée plutôt intéressante. Je me rends compte que j'admire des gens qui ont aussi des auteurs qu'ils admirent. En quoi les auteurs que j'ai cités vous ont vous-même inspiré et comment cela se ressent-il dans votre œuvre ?
Alors, ouais, c'est des auteurs que j'aime bien, et notamment les trois que vous avez cités. Donc, Ryu Mizunagi, qui est derrière un manga qui s'appelle Witchcraft Works, qui est un manga super cool avec de la sorcellerie et donc des sorcières, etc. Mais j'aime beaucoup l'originalité de la manière dont la sorcellerie fonctionne là, dans ce manga. Et je me suis inspiré un peu de ce côté-là, mais pas uniquement d'ailleurs, de cette œuvre pour N564, la manière un peu dont la sorcellerie fonctionne. Kiyohiko Azuma, qui est l'auteur de Azumanga Daio et Yotsuba avec le petit signe E à la fin, qui sont deux mangas tranches de vie comiques qui sont vraiment incroyables. Je recommande à tout le monde, pour tout public d'ailleurs. En fait, je pense que Azumanga Daio, c'est l'un des mangas les plus marrants que je connaisse. Et donc, Kiyohiko Azuma m'a inspiré dans l'humour, dans le format, dans le dessin. Et Inio Asano, c'est un auteur qui est un peu plus adulte, un peu plus mature. Déjà, j'aime beaucoup ses mangas, notamment un manga qui s'appelle Dead Dead Demons Destruction, un nom à rallonge encore. Sur cette série-là, c'est les couvertures qui m'ont inspiré. J'ai repris un peu le même type de couverture que donc Destruction sur N564. Et j'ai oublié Demons dans le titre.
Avant de laisser la parole à mes camarades du Club Info Jazz, s'ils ont des questions à rajouter, j'aimerais parler de... Vous avez aussi animé un stage manga auquel j'ai participé. C'est comme ça que je vous ai connu et que vous êtes ici.
Merci.
Et du coup, pourquoi avez-vous participé ? Avez-vous voulu faire ce stage manga ?
Alors en fait, j'ai commencé à faire des ateliers et du coup, cette année, j'ai commencé à faire des stages. Enfin, l'année dernière, en fait, notamment à Joyeuse, par exemple, avec le service itinérant jeunesse, ou service jeunesse itinérant. Ça s'est tout simplement mis en place parce que, à un moment, du coup, c'était en 2018 ou 2019, par là, j'avais fait un stage dans la librairie Lazizani au Vence, qui est une librairie que j'aime bien, qui est spécialisée BD. Et donc, je pense que ça devrait plaire à tous ceux qui écoutent l'émission. Pendant ce stage, on avait mis en place un petit atelier dessin, et ça m'avait plu. Et donc, je me suis dit, je vais en faire régulièrement dans des médiathèques, des centres socioculturels, etc. Et le stage, en fait, c'est juste une extension de l'atelier, puisque c'est des ateliers qui durent 2 heures, et le stage, ça dure 20 heures sur 5 jours. Et le but, c'est tout simplement de montrer aux gens... du coup en Ardèche, parce que je l'ai fait en Ardèche ces stages pour l'instant et ces ateliers, que n'importe qui, tant qu'il aime bien dessiner, peut faire de la bande dessinée, peut faire du manga. Et donc le but du stage et de l'atelier est d'enseigner les ficelles pour créer des planches de manga. Ça peut s'appliquer à la bande dessinée aussi, même si les codes sont légèrement différents, et donc pour que les gens puissent ensuite faire leur propre manga chez eux, avoir une base sur laquelle s'appuyer. Parce que moi-même, je suis né, on va dire, d'un peu nulle part. C'est-à-dire que j'étais juste quelqu'un qui aimait les mangas, et je me suis mis à dessiner des mangas de manière autopubliée, donc sans éditeur, sans maison d'édition, tout ça. Si moi, je peux le faire, je pense que beaucoup de personnes, il suffit d'avoir un peu le courage, peuvent franchir ce pas et le faire aussi, en fait. C'est cette impulsion, cette intention, ce courage que j'ai envie de donner aux gens à travers ces ateliers.
Je voulais juste rajouter quelque chose, donc moi aussi dire que j'y étais avec lui, du coup.
Voilà. Merci à toi.
Merci pour vos réponses. Je laisse maintenant la parole à mes camarades du Club Info Jazz s'ils ont des questions à rajouter.
Moi, j'avais une question, enfin plutôt j'avais deux questions. Quel manga vous conseillerez à quelqu'un qui n'en a jamais lu ?
Alors, c'est une bonne question. On va retomber sur... Azumanga Daio de Kiyohiko Azuma, c'est tout public. C'est une comédie, c'est des gags en 4 cases en fait. Donc il y a 2 gags par page en colonne. Et on suit des personnages au lycée et leur vie de tous les jours. Et notamment aussi les quelques professeurs. Et c'est vraiment super marrant. Et je ne peux que recommander ça.
Et du coup, j'avais une autre question. C'est quoi les différences entre être un mangaka au Japon et être un mangaka en France?
On va dire qu'il y a déjà au Japon, il y a mangaka et il y a doujinshika. Donc les mangakas sont dans les revues spécialisées de prépublication et donc avec des maisons d'édition. Et les doujinshika, c'est, alors il n'y a pas que du manga hein, d'ailleurs en doujinshi, et ça peut être des jeux vidéo, de la musique, mais donc c'est ceux qui font les fanzines, notamment pour ceux qui font les mangas dans le doujinshi. Et eux, du coup, ils sont autopubliés aussi, en fait. Donc c'est, moi, je suis plus proche du doujinshika, en fait, que le mangaka qui est avec un parcours traditionnel dans une maison d'édition comme la Shueisha ou la Kodansha, qui, eux, du coup, font 20 pages par semaine pour les hebdomadaires ou 40 pages par mois. C'est un rythme qui est vraiment très soutenu, très difficile. Des conditions de travail qui sont qui sont pas vraiment soutenables ou qui sont parce qu'on a beaucoup d'auteurs en fait qui sont souvent en arrêt maladie, on va dire, qui font souvent des pauses parce que bah justement leur santé va mal. Il y en a qui malheureusement qui décèdent aussi de ces conditions de travail. C'est un peu comme dans l'animation, c'est pas tout rose dans l'animation, les animateurs aussi donc des animés ont aussi des conditions de travail, des horaires très soutenus. Donc en bande dessinée, en France, les auteurs ont un rythme un peu plus relâché, encore ça dépend s'ils ont plusieurs projets en même temps ou pas. Mais ça, je pourrais pas trop en parler, parce que moi, du coup, je connais pas forcément le monde de l'édition. Et donc, on demandera peut-être plutôt à Monsieur Hervé, qui devrait s'y connaître un peu plus. Moi, ce que je peux parler, c'est de l'auto-édition, du coup. Et ce qui est intéressant dans l'auto-édition, c'est que on est maître de toutes les décisions. Et donc, que ce soit le rythme de publication, le rythme de travail, les horaires, parce qu'on travaille à la maison, en fait, hein, en général. Que ce soit le format, justement, c'est pour ça que moi, j'ai pu choisir un format A4, par exemple. La méthode de diffusion, etc. Donc, on a vraiment une liberté éditoriale totale. Le double tranchant de cette épée-là, on va dire. Le revers de la médaille, c'est que c'est à nous de tout faire pour que ça marche. C'est-à-dire la distribution, la vente. Il faut trouver des endroits où diffuser ses œuvres. Faut faire soi-même la communication, le marketing, tout ça. Comme on travaille à la maison, il y a tous les problèmes de travailler à la maison, de séparer la vie privée du travail, de s'y mettre quand il faut s'y mettre, de s'arrêter quand il faut s'arrêter aussi. Donc ça, c'est tous ceux qui travaillent à la maison ou en télétravail ont une idée de à quoi ça ressemble. L'auto-édition, on est vraiment maître. C'est nous qui devons tout donner.
Oui, c'est une petite question. Est-ce que de faire des nouveaux personnages, etc., c'est un peu difficile d'avoir une idée de faire des concepts, etc.
Alors, en termes d'histoire, je repioche souvent dans des concepts que j'ai eus quand j'étais au collège, au lycée, à la fac. Mais tout le temps, en fait, je les retravaille pour en faire quelque chose d'exploitable, en fait, ou qui me convient aujourd'hui. Par exemple, N564, à l'origine, c'était une série beaucoup plus longue avec limite un tournoi avec plusieurs sorcières, plusieurs combattants, etc. Et quand j'ai décidé d'en faire un vrai manga en physique, j'ai décidé de faire une version courte entre 100 et 200 pages, du coup. Au final, ça sera 150 à peu près, sur juste une sorcière et la fille qui s'en occupe, on va dire. J'ai transformé un peu le concept. Et quant au personnage, c'est parfois l'inspiration vient, notamment en écoutant de la musique ou en réfléchissant aussi aux dynamiques, aux relations avec les autres personnages qui sont déjà présents, pour avoir un personnage qui s'insère bien dans le groupe qui est déjà là.
Est-ce que le nouveau tome est encore en développement? C'est presque terminé ou quelque chose?
Alors en fait, le tome 4 de N564, ça rime, je vais commencer le storyboard. Donc en fait, le scénario précis et le storyboard, c'est on va dire le brouillon de chaque planche. Je vais commencer en avril, donc au 1er avril, parce qu'en fait, j'aime bien, sur cette série, travailler en un mois ou deux à chaque printemps pour la sortie, on va dire, en juin. Comme ça, le reste de l'année, je me concentre sur d'autres œuvres. Mais je sais ce qu'il y aura dans le tome 4. J'ai prévu les événements, les grandes lignes, en fait, justement, quand j'ai produit le tome 3, parce qu'il me restait un nombre limité de pages, au final. Il fallait que je fasse rentrer toute mon histoire dans ces 5, 6, 7, 70, 80 pages en tout. Donc j'ai déjà le plan qui est établi et maintenant il faudra juste affiner et je commencerai ça en avril.
Alors cette fois sinon c'est une question par rapport à l'événement. Comment ça marche le système pour les invités? Ça marche sur demande, sur invitation, autre chose?
En fait on a ce qu'on appelle un directeur artistique, qui a, lui, tout un tas de réseaux dans le monde de la bande dessinée. Et puis, on a aussi des artistes qui viennent vers nous et qui proposent aussi de venir au festival.
C'est des bons cas.
Voilà. Et puis, il y a les libraires aussi qui nous aident aussi pour construire au fur et à mesure la programmation. Et voilà, c'est tout ce mélange-là, cette connexion-là qui fait qu'on réussit à inviter une trentaine d'auteurs, d'autrices. Chaque année. Et au fur et à mesure du temps, en fait, il y a une forme de fidélité. Ça fait 17 ans qu'on fait le festival. Donc, les auteurs, entre eux, ils en parlent. Et tu parlais des conditions de travail des auteurs. C'est vrai que c'est... en tout cas, pour ce qui est de la bande dessinée aussi, mais je pense que c'est vraiment comparable, qu'on soit en édition ou en auto-édition. C'est un travail aussi un peu solitaire, qui peut être parfois difficile. Et les moments de festival... c'est des moments où nous, en tout cas les organisateurs, on essaye de proposer aux artistes d'avoir des moments où ils peuvent être ensemble, un peu de convivialité, d'échange, parce qu'ils sont toute la journée en train de créer chez eux, dans leur bulle, on va le dire, c'est le cas de le dire. Et voilà, nous, notre mission, en fait, c'est ça, et puis réussir à les amener vers leur public, leur faire rencontrer le public. Nous, en fait, c'est ça l'idée de l'organisation d'un festival de BD pour nous.
Et donc, pour l'invité d'honneur, comment ça marche plus précisément ou
Alors, l'invité d'honneur, en fait, justement, il est venu l'année dernière avec le précédent invité d'honneur qui lui avait proposé de venir, parce qu'ils ont des amis aussi dans ce milieu-là. Et du coup, bah, il a trouvé le festival intéressant. Et nous, on s'est dit que c'était vraiment un personnage aussi, ce Didier Tronchet. Il a un dessin très particulier, il a une œuvre assez conséquente. Et donc, c'était intéressant pour tout le monde qu'il soit programmé. Mais du coup, voilà, ça s'est fait par la rencontre entre différents auteurs.
Moi, j'avais une question concernant l'événement. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous aimeriez bien... pouvoir voir à cet événement une prochaine année ou une prochaine édition?
Alors qu'on aimerait inviter, il y en a plein, il y a Riyad Satouf, il y a Johan Sfar, des gens comme ça. Après, moi, je connais moins l'univers du manga du fait de mon âge un peu avancé. Voilà. Et puis, en tout cas, moi, pour cette édition-là, il y a un petit coup de cœur que j'ai pour Philippe Larbier, qui est déjà venu à plusieurs éditions, qui fait les petits mythos. Et voilà, c'est un petit coup de cœur perso sur cet auteur qui vient là cette année.
Donc on peut voir en quelque sorte que l'événement a gagné de la notoriété à travers les années. Et où est-ce que vous espérez que ça, jusqu'où est-ce que ça puisse aller dans les années futures, et etc.
En fait, pour nous, l'idée, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire garder un esprit convivial, qu'il y ait une proximité, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir accès aux auteurs et leur demander, échanger avec eux sur leurs créations, sur leurs œuvres. Et c'est vraiment ça qui nous motive, plutôt que le nombre de personnes. On accueille beaucoup de monde, entre 2000 et 3000 personnes sur le week-end, mais en fait, l'objectif, il est surtout que on puisse avoir un accès assez facile à des auteurs, et découvrir des nouvelles œuvres aussi. C'est aussi une partie importante de l'objectif.
Et moi, j'avais une question par rapport à l'illustration qui a été faite sur... pour cette édition. Est-ce qu'on peut la décrire? Est-ce qu'on peut en parler pour les auditeurs de la radio?
Ouais, je veux bien la décrire. Donc, c'est un des personnages de Didier Tronchet qui est accroché à la girouette du donjon du château d'Aubenas, qui est en pleine rénovation, voilà, qui va rouvrir au mois de juillet pour devenir un centre d'art contemporain et du patrimoine. Et donc, là, par exemple, le travail, il a été de donner la mission à Didier Tronchet de nous faire une affiche originale. On lui avait envoyé des photos de drones Donc il a choisi cet angle-là pour mettre un personnage un peu dans le ciel, voilà, au-dessus des tuiles vernissées du château qu'on connaît tous. Vous connaissez tous le château, bon, qui est un peu l'emblème de la ville d'Aubenas. Voilà, on voit les toits des petites maisons, enfin des maisons du centre historique. Donc peut-être que même certains reconnaîtront leur maison. En tout cas, c'est aussi une adaptation un peu libre. Hein. Il faut pas chercher absolument à trouver son toit terrasse. Mais voilà un peu l'idée de cette illustration. Et on trouve que, voilà, pour nous, encore une fois, c'est très important d'avoir toujours un morceau ou une partie du château sur la page du festival, sur l'affiche du Festival BD d'Aubenas.
J'ai une question pour vous, du coup. Est-ce que dans l'avenir, vous avez pour objectif de viser un public plutôt japonais?
Pourquoi pas, ils sont les bienvenus. Ça serait peut-être plus sur le net, du coup, où je mettrais des versions traduites, peut-être. Après, si une maison d'édition me démarche, à voir. Pour l'instant, j'aime bien l'autopublication, l'auto-édition. Ça me convient très bien, et j'essaie de croître un peu, de grandir comme ça. Et dans 2-3 ans, on verra où j'en suis. Mais après, évidemment, avoir un manga publié au Japon, bien sûr que j'aimerais bien. Et puis la consécration, évidemment, ça serait d'avoir une série animée qui soit adaptée d'un de mes mangas, évidemment. Je pense que tous ceux qui font du manga en France ont un peu cette idée derrière la tête, ou cet espoir, ils l'ont eu au moins un jour quand ils ont commencé, et certainement que tous l'ont encore, parce que évidemment si on est fan de manga, on est en général fan d'animé aussi. On a vraiment un paysage qui est incroyable en termes d'œuvres dans les animés et les mangas, et faire partie de ça, c'est juste incroyable, quoi. Ça serait une consécration, ça serait quelque chose qui nous rendrait vraiment heureux. Et c'est mon cas.
Il n'y a pas beaucoup de mangas français, non, quoi, en animé.
Y a Radiant, notamment, qui est du coup notre grand représentant, on va dire. Et sinon, ouais, adapté en animé, à part Radiant, je vois pas spécifiquement. Je crois qu'on parlait peut-être de Dreamland à un moment, mais je suis pas sûr. Mais il n'y a pas eu d'adaptation, il me semble. Radiant a montré que c'était possible, donc... Prenez vos crayons, prenez vos feuilles et faites vos mangas, parce que c'est dans les 10 prochaines années. et voilà.
Merci d'être venu répondre à nos questions. C'était le Club Info du Collège Jastre. On se retrouve ce week-end pour le Carrefour européen du 9e art et de l'image.
Ben, merci beaucoup.
À bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
La Vagabonde, le monde est sur vos ondes.